avait possédé. Et c'était Dieu qui dirigeait cette opération-là. C'était pas juste le hasard, c'était pas la loterie. C'était le Seigneur qui désignait quelle part revenait à qui. Et donc, nous devons en déduire qu'il était possible pour chaque tribu de posséder le territoire que Dieu lui avait donné. Mais comme vous avez lu avec moi, la grande majorité des tribus n'ont jamais pris possession de leur territoire. Elles avaient des excuses. Ils ont des chars de fer ou alors ils sont trop forts pour nous. Mais est-ce que vous pensez que Dieu ne savait pas ça? Et quand il disait à Dan, « Dan, je te donne la montagne, prends possession de la montagne, et puis la vallée, prends possession de la vallée », que Dieu ne savait pas qu'il y allait avoir des difficultés pour Dan, là. Je pense que Dieu, il mesure les difficultés auxquelles nous faisons face, et il nous connaît. La Bible, elle dit qu'aucune épreuve ne vous est survenue, qui n'ait été humaine. Et donc, Dieu mesure les difficultés que nous avons devant nous, et nous pouvons les renverser. Ils auraient pu, mais ils l'ont pas fait. Vous voyez, mes amis, on peut vous aider à conquérir votre héritage dans la vie chrétienne. Mais on ne pourra jamais le conquérir à votre place. Si vous ne vous levez pas avec l'Esprit du Seigneur pour prendre possession de ce que le Seigneur a en réserve pour vous, eh bien, les Cananéens y habiteront. C'est qui les Cananéens pour nous? Ce sont les ennemis de Dieu. Les fautes, les mauvais esprits, toutes sortes de choses qui parasitent notre vie chrétienne. On ne peut pas conquérir pour vous. Vous avez autorité sur votre propre vie. Dieu vous l'a donné. Et Dieu est pour vous. Et si ça ne dépend que de Dieu, la victoire est assurée. Mais est-ce que nous collaborons toujours avec Dieu? Ou est-ce que parfois nous attendons de lui ou des autres le secours? La Bible dit « Malheur à l'homme qui se confie en l'homme ». Je connais beaucoup de chrétiens qui attendent toute leur vie durant que la délivrance leur vienne, que le salut leur vienne, que la victoire leur vienne. Ils l'attendent du pasteur, ils l'attendent des conseillers, des anciens, ils l'attendent de leur épouse, de leur époux. Et elle ne vient jamais, et je les vois parfois passer des dizaines d'années dans leur vie chrétienne, et ils stagnent. Et alors quand on leur dit « Mais pourquoi est-ce que tu n'avances pas ?» Ils disent « Mais il y a ci, il y a ça, et j'ai des difficultés, j'ai ceci, j'ai cela. » Je réponds « Est-ce que tu penses vraiment que Dieu ne sait pas que tu as ces difficultés ? Et est-ce que tu penses que dans la vie de ceux qui arrivent dans la victoire, il n'y a pas de difficultés ? » Vous savez, mes amis, parfois il y a plus de difficultés dans la vie de ceux qui sont dans la victoire que de ceux qui sont dans la défaite. Il y a des personnes dans ce monde qui ont eu une mauvaise enfance, ils sont nés dans une famille difficile. Ils ont été maltraités, battus, tout ce que vous voulez, mal nourris, mal éduqués. Et puis quand ils grandissent, ils deviennent des gens bien. Ils prennent leur vie en main et ils font quelque chose de leur vie. Et puis il y en a d'autres qui ont une vie plus ou moins ok, correcte, de bons parents plus ou moins, il n'y a pas de parents parfaits. Mais ils utilisent les petites imperfections, les petites difficultés de leur enfance comme excuse pour durer toute leur vie dans leur défaite. Et ils vont chez les psychologues, et ils viennent toutes les semaines dans le bureau du pasteur. J'ai besoin de guérison intérieure, parce que quand ma maman, elle avait 3 mois, elle a été triste pendant 5 minutes, et ça m'a vraiment affecté dans le ventre de ma maman. Et jusqu'à aujourd'hui, je suis dans la dépression à cause de ça. Vous riez, mais ce sont des choses qu'on dit aujourd'hui. Ça se dit. Le Seigneur, il veut que nous soyons des guerriers. Et un guerrier, un soldat, il ne se préoccupe pas des choses de la vie et il ne s'apitoie pas sur son sort. Quand on n'a plus de service militaire, ma génération, c'était la dernière génération. Et j'ai échappé. Je regrette. Juste avant moi, les années d'école, juste avant moi, ils avaient encore le service militaire. Et puis moi, pouf, plus rien. On a une génération de personnes qui ne savent plus marcher quand elles ont des cloques aux pieds. À l'armée. Pascal, t'as fait de service militaire, toi. Quand t'as une cloque aux pieds, le sergent, il dit, « Oh, Pascal, j'ai vraiment compassion de toi. Assieds-toi ici, et quand les autres, ils auront fait leurs 15 kilomètres, on viendra te chercher en jeep, et on t'amènera avec un petit goûter et un petit jus d'orange pour que ça aille bien. Oui, ça va? Allez, repose-toi dans les... C'est ça qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? On se plaint pas quand on a une cloque aux pieds. parce qu'alors il nous traite encore plus durement. On encaisse et on marche. Qui vous a dit que la vie chrétienne était quelque chose de toujours facile? Il faut savoir prendre sur soi et être des hommes, même si on est des femmes. Être fort. Et c'est juste parce que nous les hommes, on est l'épouse du Christ. Alors, de temps en temps, on doit aussi vous rappeler, vous les dames, vous êtes des soldats du Seigneur. Hein? Vous avez autorité sur votre vie. Et personne ne peut vous aider si vous, vous ne voulez pas prendre le contrôle. Le royaume de Dieu, ce sont les violents qui s'en emparent. Qu'est-ce qui a fait qu'il y en a ici qui ont conquis leur territoire et que d'autres ne l'ont pas conquis? La Bible nous dit qu'ils ont consulté le Seigneur et ils ont dit « Qui montera en premier ?» Et Dieu a répondu « Judas, j'ai livré tout le pays entre ses mains. » Et donc Judas, il s'est dit « J'ai un appel, je vais aller monter. » Et Judas a triomphé quasiment, totalement, de tous les ennemis qu'il devait vaincre. Parce que l'onction de Dieu était sur cette tribu pour aller à la guerre et conquérir. Moi je vois ça. Si j'étais une des autres tribus, je dirais « L'onction est sur Judas. Je vais aller aider Judas pour que Judas vienne m'aider quand moi j'aurai des problèmes. » Siméon était malin. Siméon, il dit « Écoute Judas, nous sommes une petite tribu. On va aller avec toi dans tes conquêtes pour que toi, après, tu viennes avec nous dans les nôtres. » Il n'y a que Siméon qui a eu cette bonne idée-là. Et Siméon a accompagné Judas et ils ont eu la victoire parce que Judas était oint pour conquérir. La Bible, elle dit pas que Judas était oint juste pour sa part d'héritage. La Bible, elle dit ici que Dieu a dit « Je livre le pays entre ses mains ». Donc, toutes les tribus auraient dû dire à Judas « Judas, on va t'aider dans ta conquête et plus tu viendras nous aider dans la nôtre ». Mais il n'y a que Siméon qui a eu cette bonne idée-là. Et c'est pour ça qu'il n'y a quasiment que Judas et Siméon, et puis une exception, c'est Joseph, qui ont réussi à conquérir leur héritage. Et tous les autres, eh bien, ils sont restés avec les ennemis de Dieu au milieu d'eux. J'ai envie de dire ce matin, si tu ne sais pas quoi faire dans ta vie, rejoins quelqu'un qui sait ce qu'il fait. Travaille avec quelqu'un qui a l'air de savoir ce qu'il fait. Et le Seigneur va t'aider et... Il y a toujours quelque chose qui se passe quand on est en bonne compagnie. Qu'est-ce qui se passe si vous passez votre vie à l'église, assis tous les dimanches à côté de Judas l'Iscariote? Je pense qu'au bout de quelques années, vous allez commencer à lui ressembler. Ne dit-on pas que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs? Qu'est-ce qui va se passer si, depuis 10 ans à l'église, tu es toujours assis à côté d'Élie le prophète? J'ai l'impression qu'un peu de cette onction qui est sur Élie va venir sur vous aussi. Parce que quand on est avec quelqu'un, il y a quelque chose qui se passe. On fait plus quand on est en bonne compagnie que quand on est tout seul. La Bible dit, si un peut chasser 1000, deux peuvent en chasser 10 000. Pas 2 000, 10 000. Parce que c'est exponentiel ce qui se passe quand on travaille ensemble. Et nous ne sommes pas seuls. Vous êtes déjà plus nombreux que ne l'étaient les 12 apôtres de Jésus. Vous êtes en bonne compagnie, déjà ici. Il y a toutes sortes d'appels, de dons, d'onctions du Saint-Esprit pour conquérir le pays, ce que Dieu a en réserve pour vous. Pas d'excuses. Caleb était un vieil homme. Il était vieux, mais il était encore fort. Et quand on lui a donné son héritage, on lui a donné le plus dur des héritages. On lui a donné une ville fortifiée, la ville d'Hébron, qui était en haut de montagne et qui était habitée ici par les 3 fils d'Anak. Et si vous connaissez un peu l'écriture, vous savez que les fils d'Anak étaient des hommes de haute taille, qui avaient des armes de fer, des chars et tout ça. Le vieux Caleb, qui était un des seuls, qui était maintenant le seul survivant de l'Exode, il est allé conquérir cette ville. Parce que le Seigneur était avec lui. Parfois on dit « je suis trop vieux, je suis trop faible, je ne sais pas parler ». Il n'y a pas d'excuse qui tient. Devant le Seigneur, il n'y a pas d'excuse qui tient. Quand Dieu t'appelle, mon ami, quand Dieu t'appelle, il sait quelles sont tes circonstances et avec sa puissance, tu vas les traverser. Nous sommes responsables de ces choses-là. Nous avons autorité sur ces choses-là. Nous faisons dans notre vie chrétienne les progrès que nous voulons bien faire. Parce que Dieu est avec nous. Et si ça ne dépend que de lui, nous sommes dans la victoire. J'ai envie de dire aussi, tu es aussi proche de Dieu que tu veux bien l'être. C'est pas la faute de Dieu. C'est pas la faute des autres. C'est nous qui sommes parfois tellement négligents et on s'apitoie tellement sur notre sort. À notre époque, c'est « je n'ai pas le temps ». Prends le temps. Prends le temps. Même quand on dit qu'on n'a pas le temps, il y a toujours moyen de prendre le temps, de passer du temps avec Dieu et de faire quelque chose avec lui. Rejoins des personnes qui ont l'air de savoir où elles vont, qui marchent avec le Seigneur. Ne laisse pas que les autres t'entraîner. Parfois, il y a des personnes, je vois, qui nouent une amitié dans l'église ou en dehors de l'église avec des personnes qui les entraînent vers le bas. Et c'est délicat pour moi, mais je dois parfois les avertir, je dois lui dire, « Hé, cette amitié, elle est en train de te faire du mal à ta vie chrétienne. Tu es moins fidèle, tu n'as plus de passion. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui t'arrive ?» Et parfois, il y a des personnes, elles nouent une amitié qui les tire vers le haut. C'est ce genre d'amis qu'il faut avoir. Et c'est ce genre d'amis qu'il faut être pour les autres. Moi, je veux être quelqu'un qui tire les autres vers le haut. Je ne veux pas être quelqu'un qui les tire vers le bas. Et je veux être avec des gens qui me tirent vers le haut. Je ne veux pas être avec des gens qui me tirent vers le bas. Comment est-ce que je sais si je suis capable de tirer quelqu'un vers le haut? Si quand je suis avec lui, je ne me fais pas tirer vers le bas. Parce que si je suis tiré vers le bas, c'est que ce n'était pas une œuvre que Dieu voulait pour moi. Jésus dit « Mon joug est léger, mon fardeau est doux ». Si ça me tire, si c'est une enclume, si c'est l'encre qui me coule au fond de la mer, cette relation, elle n'est pas pour moi. Comment savoir si on a choisi la bonne personne avec qui se marier? Est-ce que depuis que tu es avec cette personne, tu es plus proche de Dieu? Ou tu es plus loin de Dieu? Est-ce que tu t'es éloigné de Dieu? Est-ce que tu es moins fidèle qu'avant? Ou est-ce que, maintenant, depuis que tu es avec cette personne, tu as une passion renouvelée pour Dieu? Quand ça vient de Dieu, ça te rapproche de Dieu. Quand ça ne vient pas de Dieu, ça t'éloigne de Dieu. C'est très simple, on n'a pas besoin de faire un songe où les anges descendent et te disent « Marguerite, oui, Antoine, c'est l'homme de ta vie ». De temps en temps, Dieu fait ce genre de choses, mais la majorité du temps, il nous laisse avec notre bon sens, notre parole, la Bible, et la prière, et juste notre capacité d'observer et de dire, est-ce que cette relation me fait vraiment du bien? Est-ce qu'elle me permet de chercher premièrement le royaume des cieux et sa justice, ou est-ce que je suis en train de déraper? Je ne sais pas pourquoi je dis ça aujourd'hui, je n'avais pas prévu de le dire. Il y a parfois des relations qu'on doit... On doit dire, écoute, ça m'éloigne de Dieu. Je vais devoir couper du lest là et laisser certaines choses en arrière. Travailler comme un corps. Si vous êtes tout seul maintenant dans vos combats et dans vos luttes, chacun de vous, ça va être énorme peut-être. Mais s'il y a quelqu'un ici qui peut vous soutenir dans vos luttes, la complémentarité, la synergie qui va s'opérer, va faire quelque chose d'étonnant. Et la synergie, elle marche très bien pour les petits et pour les grands. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, moi j'aime bien les documentaires animaliers. J'ai vu souvent des documentaires sur les hippopotames qui vivent en synergie complète avec des petits oiseaux qui n'arrivent pas à trouver à manger, alors ils viennent manger dans la gueule de l'hippopotame. Et l'hippopotame, il est content parce que c'est son dentiste. Il attrape moins de caries quand il y a le petit oiseau qui vient picorer dans sa bouche. Et l'un comme l'autre a des forces et des faiblesses, mais ensemble, ça fait quelque chose de parfait. C'est aussi comme ça qu'on devrait concevoir notre mariage, dans la complémentarité. Quand l'un est fort, l'autre est faible et est soutenu, et quand l'un est faible, l'autre le fort le soutient. La synergie, c'est quelque chose de magnifique. Dieu a créé ces choses-là. Et parfois, nous, les chrétiens, on attend tout de Dieu, alors que Dieu, il veut collaborer avec nous. Nous sommes les collaborateurs de Dieu. Nous ne sommes pas des victimes passives qui attendent que le Seigneur fasse tout. Je vais donner un exemple où on voit très bien ça. Vous vous souvenez de Corneille? Corneille, le premier païen qui est devenu le début de l'église pagano-chrétienne. Dieu avait vu Corneille et il aimait Corneille. Corneille était un homme de bien. Il priait tous les jours. Il faisait du bien aux Juifs. Il avait même bâti une synagogue pour eux. C'était un homme de bien. Tout le monde disait du bien de lui. Dieu voulait que cet homme soit un enfant de Dieu, un disciple de Jésus-Christ. Dieu aurait très bien pu venir dans un songe et lui dire « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et toute ta famille. » Il aurait pu le faire. Mais Dieu lui envoie un ange qui lui dit « Va chercher Simon qui habite maintenant, le long de la mer, chez un autre Simon. Tu trouveras sa maison, c'est un tanneur, là-bas, il est là-bas. Dans... Va le chercher et lui te dira les paroles par lesquelles tu seras sauvé. Alors, Corneille, il envoie ses serviteurs. Ils mettent un bon moment pour y aller. Ils arrivent, vont chercher Simon-Pierre. Et Simon-Pierre, il vient et il leur prêche la bonne nouvelle. Aussitôt qu'il leur prêche la bonne nouvelle, le Saint-Esprit tombe sur eux et ils donnent leur vie à Jésus. Parce qu'il ne leur manquait que Jésus à ces gens-là. Il leur manquait que Jésus, et dès que Simon ouvre la bouche, ils acceptent Jésus, le Saint-Esprit descend, et ils reçoivent la même expérience que les apôtres ont reçue au jour de la Pentecôte. Vous voyez ce que je veux dire? Dieu aurait pu lui-même dire à Corneille ce qu'il fallait faire pour être sauvé. Dieu aurait pu même dire à l'ange de lui dire ce qu'il fallait faire pour être sauvé. Mais ça appartenait à Pierre. Et ça appartenait aux hommes de prêcher la bonne nouvelle. Et Dieu ne fera pas ce qu'il nous a appelés à faire. Il fera ce que lui veut faire et il attendra de nous que nous fassions notre part. Il y a de la sagesse dans ce vieux proverbe « Aide-toi et le ciel t'aidera ». Fais ta part. Dieu ne te demande pas l'impossible. Il te demande juste d'obéir à ses instructions et lui y fera le miracle. Mais parfois, on est tellement passif. On doit apprendre à collaborer. On doit apprendre à collaborer avec Dieu. Faites votre part. Dieu veut vous aider. Aussi, quand vous vous mettez à aider les autres, ça s'applique aussi. Arrêtez d'essayer d'aider des gens qui ne veulent pas s'aider eux-mêmes. Vous perdez votre temps. C'est très important. Parfois, on peut passer des années à essayer d'aider quelqu'un qui n'écoute rien, qui ne veut pas entrer dans le chemin de Dieu, qui persiste à s'entêter. Vous lui dites une fois, vous lui dites deux fois, vous lui dites trois fois, vous lui dites sept fois. Et à un moment donné, il faut dire, écoute, je t'ai dit, maintenant tu sais, débrouille-toi, quand tu auras compris, tu reviendras. Mais là, pour l'instant, moi j'ai plus de temps à perdre avec toi. Il faut être capable de faire ça. Parfois, le diable, il met dans notre vie des relations avec des personnes qui ont besoin d'aide, mais elles auront toujours besoin d'aide, et elles ne s'en sortiront pas. Et ce ne sont pas des cadeaux de Dieu, ce ne sont pas des services que Dieu que vous rendiez. Ce sont des personnes qui sont des fardeaux pour vous et qui vous attirent vers le bas et qui risquent de manger votre temps. Et pendant que vous êtes en train de vous occuper de cette personne-là, vous ne serez pas en train de vous occuper de celle qui a vraiment besoin d'être aidée et que Dieu veut que vous aidiez. On doit apprendre parfois à dire, écoute, je peux plus rien pour toi, tu n'écoutes pas mes conseils. Quand on est pasteur, hein, on doit parfois le dire. Hein. Je te l'ai dit maintenant, je vais pas prendre tes responsabilités à ta place, je vais te laisser, tu assumes, réfléchis. Le diable, il peut utiliser notre bon cœur contre nous. Et on va passer du temps et du temps et du temps et du temps et du temps avec des gens, parfois. Non, mes amis, on est en guerre. On a un territoire à conquérir. Nous n'avons pas de temps à perdre avec quelqu'un qui n'a pas envie d'essayer de marcher. Et il faut parfois dire, écoute, moi je vais avancer, moi et ma maison, nous allons servir le Seigneur. Maintenant, vous faites ce que vous voulez, mais nous, on avance. Parfois, il faut faire ça dans la vie. Sinon, vous risquez de vous faire avoir. Il n'est pas possible d'aider quelqu'un qui ne veut pas être aidé. Mais il est important que vous essayiez d'aider les gens que le Seigneur veut vous aider. Quand on s'associe avec quelqu'un et qu'on essaye d'aider quelqu'un que le Seigneur a vraiment mis sur notre route pour que nous l'aidions, il se passe quelque chose de formidable. La présence de Dieu nous est donnée d'une manière remarquable pour qu'on puisse aider. Et même, ça nous aide en même temps que nous aidons l'autre. Il y a des fois, quand je bénis quelqu'un, je suis moi-même béni par la bénédiction que Dieu bénit l'autre. Quand quelqu'un est délivré, ou pardonné, ou que les mauvais esprits le quittent, je suis béni, je suis encouragé, ma foi elle est fortifiée. De voir la grâce du Seigneur et même la visitation du Saint-Esprit sur cette personne, elle m'éclabousse et je sors de là tout content. Quand on est là où Dieu nous veut, il y a quelque chose qui se passe. Vous savez, si vous n'acceptez pas l'aide, il y a des personnes aussi qui n'acceptent pas l'aide. Elles veulent tout faire tout seules. Je m'en sortirai tout seul. Non, j'ai pas besoin de confesser mes péchés parce que non, je vais m'en sortir. Je finirai bien par m'en sortir. Et 10 ans plus tard, tu es encore au même point parce que tu n'as pas fais ce que la parole de Dieu dit, confessez vos péchés les uns aux autres afin d'en être guéris. Parfois, on essaie de s'en sortir soi-même et on a besoin de l'aide de personnes compétentes. Parfois, vous savez, on a juste besoin d'une parole d'autorité, d'un serviteur de Dieu qui dit « Ça suffit Satan, tu arrêtes maintenant, tu laisses cet homme tranquille. » Et nous-mêmes, on peut prier, jeûner, faire tout ce qu'on veut, ça ne marche pas. Vous savez, mes amis, la complémentarité, le travail en équipe, la synergie, c'est très important dans la vie chrétienne. Même quand vous avez un avantage stratégique contre votre adversaire, tout seul, vous pouvez parfois rater. Ce texte nous l'apprend. Quand au verset 34, Dan, regardez un petit peu le verset 34, c'est très intéressant ce verset-là. Si vous le lisez, vous allez vous demander qu'est-ce que je veux dire. Les Amoréens, hein, juge 1, 34, les Amoréens repoussèrent dans la montagne les fils de Dan et ne les laissèrent pas descendre dans la plaine. Qu'est-ce qu'il raconte le pasteur? Est-ce que vous savez que militairement, être sur une montagne, c'est un avantage stratégique? À la guerre, être sur un lieu élevé, ça vous donne un avantage déterminant contre ceux qui sont en dessous de vous. C'est pour ça d'ailleurs qu'on construisait les forteresses sur des hauts lieux, parce qu'il suffit de jeter des pierres et on les garde loin. Quand on a une muraille, il suffit de tirer des flèches et les envahisseurs ne savent pas monter. C'est très difficile et très coûteux pour une armée de renverser une forteresse qui est placée sur une montagne. À notre époque, c'est plus le cas parce que maintenant on envoie un missile et puis il n'y a plus rien. Mais au temps des grandes guerres, c'était comme ça. Les gens dans un trou se font tuer par ceux qui sont en dehors. Il faut remonter à la Première Guerre mondiale. Quand tu étais dans une tranchée et que les soldats arrivaient devant ta tranchée, eh ben vous vous faisiez fusiller dans le trou. Et vous essayez de sortir, eh ben ils sortaient leur baïonnette et schrop, et vous étiez coupé. Être au-dessus, c'est un avantage stratégique. Regarde ici, le pauvre Dan. Les Amoréens repoussèrent dans la montagne les fils de Dan et ne les laissèrent pas descendre dans la plaine. Tout seul, malgré son avantage stratégique, il se fait repousser dans la montagne. Tu as tout de ton côté. Tu as tout ce qu'il faut pour être triomphant et victorieux. Mais parce que tu ne sais pas travailler avec les autres, tes ennemis te repoussent. Alors qu'ils sont plus faibles que toi. On a besoin de se connecter avec des gens. On a besoin d'être une vraie communauté. L'Église, ce n'est pas juste le dimanche matin et le vendredi soir. L'Église, c'est quelque chose de tous les jours. L'Église primitive, la Bible dit, chaque jour dans les maisons, ils partageaient le pain. Ça ne veut pas dire que vous devez faire la Sainte-Cène tous les jours, mais il doit y avoir quelque chose qui vous soude plus profondément que simplement pendant les 2 heures des réunions que vous avez une ou deux fois par semaine. L'Église, c'est un corps. Quand tu vas pas bien, appelle ton frère. Dis, tu veux pas venir prier avec moi? Pas toujours le pasteur, hein. Le pasteur, il a beaucoup de travail aussi. Et de commencer à nouer des relations qui vont vous faire monter vers le haut. Je vais pas vous dire, invitez-vous chez les autres, parce que ça peut être très désagréable quand quelqu'un frappe à ta porte et que tu es bien tranquille, hein. C'est comme dans Frère Jacques, hein. Hein, parfois les vieilles comptines pour enfants, hein, quand on est tranquille chez soi et quelqu'un nous importune à la porte, hein, on ne veut pas ouvrir. Mais on doit être capable d'inviter les autres. Est-ce que vous vous invitez parfois les uns chez les autres? Moi, j'ai vu qu'il y avait des relations dans l'Église que j'avais avec des personnes qui étaient problématiques. On ne savait pas se parler. On n'arrivait pas à connecter. Ou bien parfois on avait un différent. J'ai trouvé une superbe stratégie. J'invite la personne à manger, ou je l'invite au restaurant et on va manger un bout ensemble. Ça détruit tout le mur entre nous, et on développe une connexion qui fait qu'à par la suite on peut mieux collaborer. Il y a une personne à laquelle je pense là tout de suite, dans notre église. Un jour on a eu un différent, mais qui n'était ni de sa faute ni de ma faute. C'était un manque de communication, on ne se comprenait pas. Et ça a été très loin, on était vraiment, notre relation était vraiment en danger. Et puis, quelqu'un m'a dit, je demandais un conseil, quelqu'un m'a dit, pourquoi est-ce que tu ne l'inviterais pas manger un bout avec toi? Moi je pensais, il faut qu'on s'assoie à table, il faut qu'on discute, il faut qu'on se confronte. La personne, elle m'a dit, oui, mais si vous mangez quelque chose de bon, ça va améliorer les choses. Alors je me suis dit, ok, c'est peut-être pas une bêtise. Je l'ai invité au restaurant, on était juste lui et moi. Eh bien, dès qu'on mange, vous savez, tous les soucis s'en vont. Dans la Bible, ils savaient ça. Tout ce qui était important se passait autour des tables. Jésus, il disait, j'ai vivement désiré manger ce repas avec vous avant de souffrir. Quelque chose de bon se passe autour de la table. Et si notre communion, elle se résume à ce moment autour de la table, 5 minutes le dimanche matin, il y a quelque chose qui ne va pas. Créer des relations. Et cet homme avec qui j'avais un différend, vous savez quoi? Cette heure et demie passée au restaurant a changé notre relation pour toujours. Et maintenant, le diable n'arrive plus à se mettre entre lui et nous, entre lui et moi, parce que nous développons un dialogue et une communication qui coupe court à tous les pièges du diable. Avant, ce n'était pas le cas. Une heure et demie de restaurant, ça vaut la peine, hein, pour ça. Et puis des années de tranquillité. Il faut créer des relations avec les gens. Parce que sinon, tout seul, même avec toutes les forces du monde, vous pourriez être comme Dan et ne pas pouvoir faire valoir votre avantage stratégique et rester dans la défaite. Parce que nous avons un avantage stratégique, vous vous rendez compte? Satan ne va pas être vaincu. Il est déjà vaincu. Jésus a triomphé à Golgotha pour chacun de nous. On a un avantage stratégique, sans doute l'avantage militaire le plus grand de toute l'histoire. On part en vainqueur. On a déjà tout. Et pourtant, on est parfois encore dans la défaite. Parce qu'on n'arrive pas à travailler en équipe. Et si vous ne réglez pas, mes amis, les trucs qui tiennent dans votre vie et qui vous persécutent et qui vous embêtent, je vais vous avertir. Ça ne va pas faire que vous embêtez vous. Ça va embêter tout le corps. Est-ce qu'un orteil peut être gangréné sans que tout le corps soit mis en péril? Qu'est-ce que fait le docteur quand on refuse de soigner de la gangrène dans un orteil? Il ampute. Et même parfois, il ampute haut. Quand il voit que l'infection, elle monte, il ampute le pied, il ampute la jambe jusqu'au genou. Parce que le corps entier est mis en péril par un petit élément qui souffre. Il faut régler ces choses-là. Alors Israël, ici, ils ont laissé 9 ou 10 ennemis subsister dans le territoire que Dieu leur avait donné. Et la Bible, elle nous dit que plus tard, c'est devenu des problèmes pour eux. Ils sont devenus des tentations pour eux. Vous savez quoi? Parce que les ennemis, ils font des petits. Ils sont petits aujourd'hui, mais demain, ils sont 1 million. Et tu dis, bon, c'est rien, pour l'instant, je leur impose un tribut. Je contrôle. C'est ça. Ils vont pas arrêter de se reproduire. Un peu de levain fait monter toute la pâte. Le péché continue son chemin. Et puis, pour finir, ça t'embête, toi, mais à un moment donné, ce n'est plus tes affaires seulement. Ça touche le corps en entier. Nous évoluons ensemble. Nous souffrons ensemble. Est-ce que la Bible ne dit pas, si l'un de vous souffre, tous souffrent? Et même elle nous dit de pleurer avec ceux qui pleurent. Il y a quelque chose qui se passe quand quelqu'un est dans la souffrance. On doit savoir partager ces choses-là. On doit savoir se faire aider. Il faut parfois faire taire le diable qui te dit, ils vont te juger, ils vont se moquer de toi. Il y a une personne ici qui a besoin de ça. Tu es dans la honte et tu as besoin d'aller parler de ce que tu vis dans ta vie privée. Et tu n'oses pas parce que tu as peur d'être jugé, peut-être parce qu'il y a déjà eu des difficultés de communication dans le passé. Mais si tu ne te fais pas aider, ça ne va pas s'améliorer. Il faut que tu trouves de l'aide. C'est important. Dieu disait à Israël autrefois, si vous ne chassez pas les habitants du pays qui sont devant vous, mais que vous les laissez, ils seront des épines dans vos yeux et des aiguillons dans vos côtés. Ils seront vos ennemis dans le pays où vous devez vous établir. Les petits ennemis insignifiants, ils deviennent les grands ennemis de demain. Les petits compromis d'aujourd'hui deviennent les chutes énormes de demain. On a besoin de les régler. C'est plus facile d'arracher un petit arbre qui vient de pousser, une petite pousse de chêne, que de déraciner un chêne qui a 20 ans. C'est plus difficile. Quand ils sont petits, on peut s'en occuper beaucoup plus facilement. Les ennemis que tu tolères finiront par embêter tout le monde. Alors il faut les régler, mes amis, il faut les régler. Et pour ça, il faut qu'on apprenne à exercer notre volonté. Et c'est ça que je veux insister ce matin pour vous. On a besoin d'exercer notre volonté. Bien souvent, l'ennemi a plus de volonté que nous, et c'est pour ça que nous restons dans la défaite. Je suppose que je ne vous apprends rien en vous disant que Satan est un être très têtu. Ça fait des milliers d'années qu'il persécute l'homme et il n'en démord pas. Exercez votre volonté. Regardez avec moi les versets 27 et puis 35, parce que là, on voit vraiment ça. 27 et 35 de Juges 1. Vous allez repérer là où il y a les questions de volonté. Manassé ne chassa pas les habitants de Beth-Shéan et des villes de son ressort, de Tanakh et des villes de son ressort, de Dor et des villes de son ressort, de Jibla et Am et des villes de son ressort, de Megiddo et des villes de son ressort. Regardez ici. Les Cananéens voulurent rester dans le pays. Verset 35. Les Amoréens voulurent rester à Ar-Eretz. Vous avez vu l'ennemi? Il veut rester. Il a de la volonté. Et si votre volonté ne dépasse pas sa volonté, il va rester là où il est, parce que Satan occupe tout le territoire que l'Église accepte de lui laisser. Mais dès que notre volonté est assez grande et que nous disons non, nous allons plus tolérer ça, ça suffit. Il y a des fois, il faut que les chrétiens se lèvent et qu'ils arrêtent de mendier devant Dieu, de supplier devant Dieu, mais qu'ils commencent à prendre autorité et qu'ils disent « Satan, ça suffit maintenant, tu vas arrêter de toucher à ma famille. À partir de maintenant, c'est Jésus-Christ qui domine ici et je te commande de sortir de ma famille. Tu arrêtes de polluer la vie de mes enfants. Tu arrêtes de créer des persécutions sur mon lieu de travail. Il y a des fois, il faut prendre le taureau par les cornes dans la vie chrétienne. Nous sommes plus que vainqueurs. Nous ne sommes pas des mendiants. C'est pas, oh, s'il te plaît, Seigneur, tu vois mes peines, mes souffrances, j'ai besoin de ton secours. Et Dieu dit, je t'ai donné toute autorité sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra te nuire. Lève-toi, ouvre ta bouche, proclame la victoire. Vous savez, le royaume de Dieu, il avance beaucoup avec ce que nous déclarons, ce que nous proclamons. Pas parce que nos paroles ont un effet, mais parce que la parole de Dieu, elle a un effet. La parole de Dieu est la vérité. Et quand la parole de Dieu, elle sort de ta bouche, elle a de l'effet. Je me souviens, dans le moment le plus difficile de ma vie, je disais à Dieu, j'ai besoin d'une arme. J'ai besoin d'une arme. Parce que quand Jésus était dans le désert contre Satan, Dieu lui a donné des armes. Il avait des versets bibliques pour contrer Satan. Satan le tentait, Jésus avait un verset biblique pour chaque fois que Satan le tentait. Non, car il est écrit, qui disait au diable. Et j'ai dit, Seigneur, moi j'ai besoin d'un « il est écrit ». Et dans ce moment-là, Dieu m'a donné un passage. C'était un passage dans Romains 8, à partir des versets 30 jusqu'à la fin. Et j'ai senti dans mon cœur que c'était mon épée. La Bible, elle dit que la parole de Dieu est l'épée de l'esprit. Elle est l'épée de l'esprit quand nous la manions. Elle est l'épée de l'esprit quand nous la proclamons. Et j'ai proclamé à Satan les choses que la promesse de Romains 8 m'accordait. Et j'ai vu que ça faisait de l'effet chez lui. Chaque fois que je prononçais ces paroles-là, c'était comme si je lui donnais un coup d'épée. Et je sentais sa résistance s'amoindrir contre moi. Il y en a plusieurs ici. Vous avez besoin de demander à Dieu votre arme. Quelle est la parole de Dieu dans les Écritures qui peut être l'épée de l'esprit pour votre situation actuelle? Les supplications, la mendicité spirituelle, ça ne suffira pas. Parce que Satan, il a mis des pions stratégiquement pour t'empêcher d'avancer et il va falloir que tu manies la parole de Dieu contre lui. Et c'est de la parole de Dieu elle-même que nous tirons notre autorité. Je n'ai pas d'autorité autre que celle de la parole de Dieu. Un pasteur n'a pas d'autorité autre que celle de la parole de Dieu. Je ne peux pas vous commander, au nom du Christ, de déménager en Australie. Ce n'est pas mes affaires, ça. C'est votre responsabilité. Mais au nom de Jésus-Christ, je peux dire, la parole de Dieu, elle dit, il est écrit. Maintenant, tu fais ce que tu veux avec. Mais il est écrit. La parole de Dieu, c'est sur elle que nous asseyons notre autorité, que nous sommes capables de dire, non, Satan, je commande que tu obéisses à la parole du Dieu vivant. Il faut chercher une parole de Dieu. Il y en a quelques-uns ici, hein, qui vous devez commencer à demander à Dieu, Seigneur, donne-moi une parole pour sortir de cette étape de ma vie dans laquelle je tourne en rond depuis si longtemps. J'ai le bouclier de la foi, mais tout ce que ça me sert, c'est à me défendre. Je bloque. À un moment donné, vous avez besoin d'attaquer. Seigneur, donne-moi une parole avec laquelle je vais transpercer les mensonges de Satan. On a besoin de volonté. On a besoin de plus de volonté que nos ennemis. Quand ta volonté d'être libre sera plus grande que la volonté de l'ennemi de t'asservir, tu seras libre. Amen. Quand ta volonté d'être libre dépassera celle de tes ennemis de t'asservir, tu seras libre. Parfois, on est dans la défaite parce qu'on le veut bien encore. Dans le combat, c'est souvent le plus persévérant qui gagne. Vous avez déjà regardé des matchs de boxe? Bon, j'aime pas trop la boxe. Moi, je trouve ça ennuyeux, mais j'ai parfois regardé des matchs de boxe. Et j'ai parfois vu des hommes qui étaient partis pour être vaincus, mais parce qu'ils avaient plus de volonté et de persévérance, ils arrivaient à user leur adversaire, le fatiguer et le vaincre. Il y a parfois de ces matchs de boxe où 10 contre 1, on dit c'est celui-là qui va gagner. Mais ce jour-là, il n'a pas de volonté. Et alors il arrive dans le match de boxe avec un peu de défaite. Même s'il est le plus fort, l'autre qui est plus faible, parce qu'il a de la volonté, qui dit non, je ne vais pas abandonner, je vais continuer, je vais rester là où je suis censé être, il l'a à l'usure. Quand j'étais adolescent, et que j'étais loin du Seigneur, je pratiquais le Kung-Fu, c'est un art martial chinois. Quand je suis revenu au Seigneur à 19 ans, il m'a conduit à abandonner ce sport de combat, parce qu'il n'est pas seulement un sport de combat, c'est aussi une philosophie de vie et une religion en même temps. Le Kung-Fu, ça signifie le travail dur. C'est le travail dur pour la volonté, parce que qu'est-ce qu'on ne nous faisait pas souffrir là-dedans? On nous faisait faire des pompages sur le carrelage avec nos poings jusqu'à ce qu'on saigne. On nous jetait des coups avec des bâtons pendant qu'on faisait ces pompages sur notre dos et sur nos bras. Vous imaginez un petit peu. Et parfois, quand le maître, il se sentait vraiment inspiré, il prenait le sac de frappe qui pesait 20 kilos et il le jetait sur notre dos pendant que nous faisions des pompages. Il était un peu fou. C'était un travail de fou, ce truc-là. Mais ça fait l'effet du service militaire. Mon père, il était terrible. Il n'était pas content du service militaire, alors il s'est inscrit à la Légion étrangère française. Mais ils l'ont brisé là-bas. Va chercher une feuille sur l'arbre. Lequel? Discute pas, va chercher une feuille. Oh. Il court 100 mètres, il revient avec n'importe laquelle. Pas celle-là, l'autre. Et on lui faisait faire ça 50 fois. Et on voulait voir s'il était obéissant aux ordres. Et il apprenait à mordre sur sa chique et à dire non, je vais pas le laisser me provoquer, je vais endurer, je vais rester. On le mettait au bord d'une falaise. On lui bandait les yeux, on le faisait tourner sur lui-même, on lui disait marche. Il savait pas où il marchait. Il devait faire confiance à au sergent. Tu sais pas si le prochain pas c'est dans le vide. Et mais à notre époque, on a fait une génération de personnes molles, qui n'ont plus de volonté, parce qu'on ne sait plus faire des hommes et des femmes faits. Il y a un problème éducationnel dans notre époque. Les professeurs, vous le voyez sans doute. Et on attend de l'école qui rattrape l'éducation que les parents n'ont pas su faire. On doit devenir des hommes et des femmes faits, accomplis, fermes, qui tiennent sur leur place et qui disent « Satan, non, tu ne mourras pas, tu ne vas pas me faire bouger d'ici. Le Seigneur a dit qu'il y aurait une église ici à Boisvillers. Le Seigneur a dit, regardez, il a pourvu, je regarde ici ce matin. Vous avez une belle installation ici. Vous avez du matériel, vous avez du matériel de qualité. Dieu est ici. Sa présence est ici. Il s'est investi ici, le Seigneur. Il est là. Si vous êtes encore en train de vous demander, est-ce que c'est la bonne église pour moi? Oui, le Seigneur est ici. C'est un endroit et c'est une communauté que Dieu veut bénir et faire fructifier. Qu'est-ce qui manque maintenant? Maintenant, il manque la collaboration de tout le monde. On doit prendre ceci à cœur et dire à partir de maintenant, nous, on va conquérir. Et comment on fait? Ce matin, j'en parlais brièvement avec votre pasteur. Devenez des témoins de Jésus. Parlez de lui. Dites ce que Jésus a fait dans votre vie autour de vous. C'est tout ce qu'il vous demande. Le miracle de convertir, de délivrer, de guérir, ça c'est lui qui va le faire. Mais juste oser prononcer son nom. Je sais, c'est difficile. L'autre jour, il y a un jeune homme qui arrive devant notre maison, tout désemparé, en train de pleurer. Enfin, un jeune homme, il devait avoir 25 ans peut-être. Et, quoi? 27 ans. Et il nous dit, mon épouse m'a mis dehors. Je suis sans rien, j'ai plus rien, j'ai plus de téléphone. Et alors, ma femme, elle lui dit, mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse pour vous alors? Ben, prêtez-moi votre téléphone. Alors, elle lui donne le téléphone et il téléphone pour savoir si quelqu'un veut bien l'héberger. Et puis il dit, vous voulez pas me conduire jusque-là? Je dis, bah oui, moi je veux bien, c'est facile pour moi de faire ça. Je le conduis, ça a pris 20 minutes, je le conduis là-bas. En chemin, le Seigneur me met à cœur de lui commencer à lui parler de Dieu. C'est ça le moment crucial. C'est le moment où tu dis, je le fais, je le fais pas, je le fais, je le fais pas, je lui parle pas. Qu'est-ce qu'il va dire? Est-ce qu'il est prêt? Est-ce qu'il va pas être fâché? Hein? Alors je lui dis, il était en train de se plaindre, il n'y a rien qui va dans sa vie, ce pauvre garçon-là. Hein? Il était vraiment désemparé. Je lui fais, il est peut-être temps d'envisager de se tourner vers le ciel. Et alors il dit, oh non, non, je ne peux pas faire ça. Il m'a pris tellement de personnes, il a pris ma grand-mère, il a pris mon petit frère, il se met à pleurer. Et je lui dis, mais, donc tu crois en Dieu? Oui, j'y crois. Moi, j'avais peur de lui parler de Dieu, le gars, il attendait que ça. Et je lui dis, moi, j'y crois aussi. Et alors, je lui ai donné mon numéro, je lui ai dit, maintenant, tu es dans des problèmes difficiles, mais quand tu veux parler, tiens, prends mon numéro, appelle-moi, je viendrai, on va s'occuper de toi. Et il a dit, merci, oui, et il m'a fait écrire le numéro de téléphone. Juste ça, j'ai rien dit. Mais le garçon, maintenant, il a un pont vers Jésus possible. Et si il veut, parce que moi je veux le tester, moi je ne vais pas dire, maintenant, on va s'arrêter. Tu vas confesser tes péchés, on va prier Jésus pour qu'il te pardonne, que le sang de Jésus te lave de tes péchés. Il n'est peut-être pas prêt à ça. Alors quand vous faites le travail pour l'évangile, semez une semence. Créez un petit pont. Moi je crois en Dieu. Si tu crois en Dieu, viens. Ou si tu veux apprendre un peu plus sur ces choses-là, je vais te parler. Tiens mon téléphone. Juste ça. Vous savez ce que Dieu fait par la suite? Il tourmente la personne avec ce que tu lui as dit. Toute la nuit, il entend, appelle-le, il va te parler de Jésus. Ouais. À la fin, il le fait. Combien de fois ça n'arrive pas, ça? Que Dieu persécute la personne. Mais si toi, tu n'as pas tendu la perche, Dieu va pas lui dire, appelle-le. Il va dire, mais si je l'appelle, il va croire que je suis fou. Mais si tu lui as dit, moi, je crois en Jésus, et je sais que Jésus peut faire quelque chose pour toi, il sait de quoi il va parler avec toi ce jour-là. Il faut créer des ponts. Ton collègue, ton copain de classe, tes amis, des gens que tu croises tous les jours quand tu vas boire ton café à midi. Il y a des personnes là que Dieu t'envoie et on passe à côté. Vous savez, c'est le témoignage qui remplit les églises. Ce ne sont pas les grandes conférences d'évangélisation. Billy Graham, lui-même, il disait qu'au bout de 10 ans, les personnes qui répondent dans ces appels, il n'en reste que 5% qui sont encore chrétiens dans une église. Et combien de milliers d'euros on dépense pour convertir ces gens et il n'en reste presque pas. Mais la majorité des gens qui viennent au Christ, c'est à cause du témoignage de quelqu'un. Vous savez, la venue de Billy Graham, il y a combien d'années maintenant? C'est dans les années 70. Mais ça fait longtemps. La dette, elle n'est pas encore payée. La dette de l'événement n'est pas encore payée. On a dépensé des milliers d'euros et je ne sais pas où sont passées toutes ces personnes-là. Si c'est vrai ce que Billy Graham dit, il n'y a que 5%. Vous allez dire, c'est déjà bien. Oui, mais le témoignage tout simple fait 10 fois mieux que ça. Juste de simplement partager. C'est comme ça que vous allez pouvoir conquérir. Vous allez devoir avoir de la volonté. Il faut dire, je vais m'exposer, je vais montrer mes couleurs, je vais dire qui je suis. Tant pis si on ne m'aime pas. Je vais tendre des perches, je vais créer des ponts, je vais tendre la main. Je vais dire, écoute, si tu as besoin de prier, moi je veux bien prier avec toi. Juste cette phrase-là, n'a même pas encore prononcé le nom de Jésus, ça fait rien. Si tu as besoin de prière, tu n'as même pas dit quelle religion tu étais, c'est pas grave. Si tu as besoin de prière, tiens, téléphone-moi, je serai là pour toi. Il va venir, le fait qu'il vienne te demander, ça montre déjà qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer dans son cœur. Et alors tu vas doucement. Faut pas penser que tu es obligé de faire les 4 étapes de la repentance le premier jour. Peut-être que c'est même pas toi qui le feras, que c'est quelqu'un d'autre qui le fera. Mais toi, tu as juste besoin de semer quelque chose. Si, d'ici l'année prochaine, chacun de nous ici, on témoigne efficacement à au moins une personne, l'Église a doublé. C'est vrai, hein? En un an, est-ce que c'est beaucoup de témoigner efficacement au moins à une personne? Je pense pas. Hein. On peut trouver quelqu'un. C'est peut-être quelqu'un dans ta famille. C'est peut-être un collègue qui ne va pas bien. Et si tu as personne qui ne va pas bien autour de toi, dis Seigneur, montre aux gens qui vont pas bien que je puisse les aider. Parfois, le Seigneur, il permet dans la vie de certaines personnes des épreuves pour qu'elles soient prêtes à le recevoir. Réfléchissez à ça. Tu te dis peut-être je suis nulle part, je viens de me convertir. Ça ne change rien du tout, ça. Si Dieu a déjà fait quelque chose dans ta vie, tu peux déjà commencer à témoigner, même si tu n'es pas parfait. Mais il faut de la volonté. si nous ne sommes pas capables de passer au-dessus de ces petites difficultés dans notre volonté. Quand la persécution viendra, et elle viendra, elle va venir de plusieurs sources, de plusieurs moyens, par plusieurs moyens, mais elle viendra, la persécution dans notre pays. Dans les cours de religion, on la voit déjà commencer. Bientôt, il va falloir que tu trouves un autre travail, si ça continue. Parce qu'on partout on repousse. Je viens d'apprendre cette semaine-ci que le président de la Commission pour les droits de l'homme, il a dit « Si la liberté religieuse est un couvert pour masquer l'homophobie et l'islamophobie, ce n'est plus un droit que nous devons garantir. » Attends, vous avez compris ce que je viens de dire? Si la liberté religieuse est une couverture pour masquer l'homophobie, l'homophobie c'est le rejet de l'homosexualité, ou l'islamophobie, et il a dit encore deux, trois autres choses, ce n'est plus une liberté que nous pouvons garantir. Ça veut dire quoi? Que nous n'aurons bientôt plus la liberté de dire ce que nous pensons des comportements déréglés de notre civilisation. La persécution va venir. Si nous n'avons pas de volonté contre les petits ennemis qui sont là devant nous maintenant, ne vous inquiétez pas, vous n'aurez pas de volonté pour tenir face à la grande persécution qui viendra, tôt ou tard. D'ailleurs, l'Église n'a jamais autant prospéré que quand elle était persécutée. Parce que l'Église persécutée, il y a un tri qui s'opère et il n'y a que les chrétiens qui en veulent et qui disent « Non, dans mon cœur, j'ai choisi de suivre Jésus-Christ. Si mon père et si ma mère m'abandonnent, Dieu me recevra, je tiendrai ici et même si je dois mourir pour ça, je suis prêt à mourir pour ça. Parce que Christ est ma vie et la mort est un gain. » Il y a un moment donné, il faut se lever et être des soldats du Christ comme ça. Et c'est maintenant l'entraînement, c'est maintenant qu'il faut le faire. Vous venez ce matin, vous dites « Adieu, oui Seigneur. » Et puis vous rentrez chez vous, et vous ne savez pas dire non à vous-même. Et cette incapacité de dire non à vous-même invalide votre oui. Je vais redire ça parce que c'est important. Vous venez ici ce matin, vous dites oui au Seigneur. Et puis vous rentrez chez vous, et vous ne savez pas dire non à vous-même. Et votre incapacité à dire non à vous-même invalide votre oui. Parce qu'il faut savoir ce qu'on veut. Et ce matin, c'est mon message pour vous. On doit savoir ce que nous voulons. Qu'est-ce que tu veux, dit le Seigneur. Est-ce que Jésus ne disait pas ça de temps en temps aux personnes? Que veux-tu que je fasse pour toi? Qu'est-ce que tu veux, en fin de compte? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Élie, sur la montagne, il disait, qu'est-ce que vous voulez faire? L'Éternel est Dieu, servez-le. Si c'est Baal, servez-le. Mais qu'est-ce que vous voulez faire? Décidez! J'ai envie de dire non d'une pipe. Mais il n'a pas dit ça, lui. Qu'est-ce que vous voulez? Quand allez-vous arrêter de sauter sur un pied puis sur l'autre? Moi, je crois que ce matin, il y a une trompette qui sonne au-dessus de cette église. C'est la trompette de la mobilisation. Et qu'on doit arrêter d'écouter nos excuses et on doit dire, Seigneur, à toi mon cœur, ma vie, Christ, tu es mon roi pour toujours maintenant. Je me mobilise, je suis dans ton armée, je suis ton soldat. Je vais marcher avec toi. Je vais être un témoin de ton royaume autour de moi. Et je ne vais pas laisser mes petits ennemis encore m'embêter. Si je n'arrive pas à bout d'eux tout seul, je vais appeler quelqu'un autour de moi qui est capable de vaincre ses ennemis. Il va venir m'aider et quand lui aura besoin d'aide, je vais l'aider. C'est ça la leçon qu'on apprend dans cette histoire. Israël ne l'a jamais apprise. Ils n'ont jamais conquis tout le territoire que Dieu avait en réserve. Jusqu'à ce jour. Regardez la petitesse du pays qu'ils ont maintenant comparé à ce qu'ils étaient censés avoir depuis le Nil jusque l'Euphrate. Tout le croissant fertile. Ils ne savaient même pas. Si Israël avait conquis tout le territoire qui était pour eux, ils auraient tous les puits de pétrole les plus riches de la terre. Tout le croissant fertile est rempli de puits de pétrole. Et ça, ils ne le savaient pas. Dieu, Israël serait la première puissance mondiale. S'ils avaient obéi au Seigneur. L'Église ici à Boisdevillers, vous serez un phare dans cette région qui fera une saine jalousie pour d'autres si vous emparez du territoire que Dieu a en réserve pour vous. Ils viendront, ils diront, qu'est-ce que vous faites pour que ça marche? Comment est-ce que vous avez fait? Parce que Dieu est avec vous. Il est avec vous et il veut que nous nous mettions à conquérir. C'est cette année-ci, hein, qui commence maintenant, je veux dire année scolaire, c'est une année de défi. Le Seigneur m'a dit que c'était une année de défi. Il va y avoir des défis à relever. Il va y avoir des ennemis à confronter. Il va y avoir de vieux ennemis qu'on pensait disparus qui vont remonter à la surface et qui vont vous dire « Je suis toujours là. Oh Seigneur, je croyais que ça faisait longtemps que j'avais plus ce problème-là. » Il va venir faire coucou. Plusieurs d'entre vous. Vous allez lui dire « Retourne dans le tombeau où tu appartiens. Ne laisse pas les vampires sortir de leur sarcophage. Le vieil homme, il est mort, crucifié. Considérez-vous vous-même comme mort, dit l'apôtre Paul. Non, ça c'est fini dans ma vie, c'est le passé. Moi, je vais marcher avec le Seigneur. Vous allez avoir des défis comme ça pendant cette année. Il y a des défauts que vous pensiez régler qui vont remonter le bout de leur nez. Vous avez autorité. Non, je dis non. Et je vais me tenir ferme devant le Seigneur. On va avancer. Parfois, il y a une personne, je sens ce matin, c'est le désespoir. C'est comme si tu te dis, c'est trop dur, je ne m'en suis jamais sorti, je ne m'en sortirai jamais, je ne vois même pas par quel bout prendre l'affaire. Avec Dieu, tout est possible. Tous ceux qui sont ici, on est sortis de problèmes terribles. Dieu nous a sauvés hors des ténèbres. La sœur tout à l'heure, elle priait que Dieu nous a délivrés, Dieu nous a rachetés, il nous a affranchis, il a brisé nos chaînes. Tous ici, nous étions des esclaves, des ténèbres, et Dieu nous a libérés. Les chaînes peuvent tomber ce matin, dans le nom de Jésus-Christ, n'est-ce pas? Les chaînes peuvent tomber. Est-ce qu'il y a des soldats du Seigneur qui veulent se lever et dire oui? Je vous invite juste à vous lever si c'est vous. Levez-vous. Levons-nous, soldats du Christ. Levons-nous, soldats de Jésus. La trompette sonne. Seigneur, levez bien une main vers le ciel pour lui montrer que c'est bien vous. Oh Seigneur Jésus, nous sommes là devant toi ce matin et nous nous tenons devant toi. Ton armée est prête. Nous sommes un petit groupe, mais nous sommes un petit groupe de vaillants héros. Nous sommes les héros de David. Et Seigneur, nous en battrons 1 000, 800 ou 2 000. Mais Seigneur, avec toi, nous ferons des exploits, car c'est toi qui écrases nos ennemis. Et maintenant, nous adressons un cri de guerre à toutes les puissances et les principautés qui sont au-dessus de cette région. Et nous leur faisons connaître que Jésus-Christ est Seigneur et Roi des Rois. Et que nous sommes en marche et que nous ne reculerons pas. Que nous ne laisserons pas les ténèbres garder toutes ces personnes qui sont autour de nous. Mais nous allons nous en emparer, comme David arraché de la gueule du lion ou de l'ours l'agneau qui avait été volé. Nous allons conquérir ce territoire. Écoutez-nous bien, ennemis de Dieu, vous tous là-haut, au nom de Jésus-Christ, nous vous faisons savoir votre défaite. Votre temps est compté. Ici, il y a des soldats de Jésus qui n'ont pas peur de donner leur vie. Et Père éternel, nous voici, nous te prions, donne-nous de l'assurance pour être des témoins. Donne-nous la puissance de ton esprit pour être de vaillants héros. Car qui peut faire ces choses sans toi? Mais si tu es avec nous, comme disait le pasteur tout à l'heure, qui sera contre nous? Qui sera contre nous, Seigneur? Tu es avec nous. Que dirions-nous à l'égard de toutes ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? S'il n'a pas épargné son propre fils, mais qu'il l'a livré pour nous, à combien plus forte raison nous donnera-t-il aussi toutes choses avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus. Il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour du Christ? Nous le déclarons au-dessus de cette région. Et Seigneur, nous te bénissons pour ta présence dans ce lieu. Je te prie que ton esprit tombe sur cette église, Seigneur, et que tu nous revêtes d'assurance et d'un amour à toute épreuve pour rejoindre notre génération qui se perd. Seigneur, nous n'allons pas tourner en rond. Nous allons traverser le Jourdain. Nous allons conquérir le territoire que tu nous as donné, chacun de nous. Et Seigneur, tous ceux qui ont besoin d'aide, permet qu'ils trouvent de l'aide efficace. Seigneur, que ceux qui ont besoin d'être délivrés le soient, que ceux qui ont besoin d'être guéris le soient. Seigneur, tu fais un tri dans cette église et tu agis, Seigneur, avec puissance. Oh Dieu, tous ceux qui n'étaient pas pour nous, tu les as enlevés d'ici. Et c'était pas facile, Seigneur, mais ceux qui sont pour nous sont là. Et nous allons ajouter tous ceux que tu appelles, au loin comme au près. Et nous les appelons prophétiquement maintenant, du nord, du sud, de l'est et de l'ouest. Enfants de Dieu, armée de Dieu, venez, venez nous rejoindre. Nous vous appelons dans vos maisons, dans vos écoles, dans vos lieux de travail, venez nous rejoindre. Et que l'armée de l'Éternel soit une armée innombrable, comme le sable au bord de la mer. Seigneur, tu fais ces choses. Merci Seigneur d'envoyer tes anges. Mais aussi, Seigneur, de nous envoyer, nous, avec la parole de l'Évangile et le feu de ton Esprit Saint, pour conquérir. Merci, Seigneur, de le leur donner. Étends ta main, Père, et qu'il se passe des prodiges dans le nom de Jésus-Christ, ton Fils. Et donne-nous de l'assurance ce matin, Seigneur. Je te loue, ô Dieu. Je te loue, ô Dieu. Merci pour ce que tu fais. Tu es digne de toute gloire, Père. Tu es merveilleux, Seigneur Jésus. Visite-nous par le Saint-Esprit, Papa. Ouais, Seigneur. Nous t'adorons, Seigneur. Nous t'adorons, Seigneur. S'il y en a deux, trois qui veulent prier, je vous invite vraiment à le faire maintenant. Oh là là, Sainte. Jésus.
Merci, Seigneur. Jésus.
Jésus.
Oh, Jésus, nous voulons être remplis de forte assurance, Seigneur. Devant tous les combats, les difficultés, les défis qui sont devant nous. Seigneur, merci Jésus, nous avons Dieu avec nous, Seigneur. Merci parce que tu vas nous donner la victoire. Ce n'est pas la victoire, la victoire qui est pour toi, c'est la victoire et nous voulons avoir cette bonne volonté. Oh, merci Jésus. Et à ceux qui sont devant nous, nous voulons avoir cette bonne volonté avec toi.